bonjour déjà. En qui placez-vous votre confiance? À qui faites-vous confiance? En quoi faites-vous confiance? Un sondage publié en fin d'année dernière par l'Institut Ipsos révèle les métiers qui inspirent le plus confiance aux Français. Quels sont ces métiers? Parmi les professions les plus dignes de confiance, on retrouve pêle-mêle les scientifiques, les médecins, les militaires, les enseignants, les policiers. À l'autre extrême, parmi les professions auxquelles les Français font le moins confiance, attention, on retrouve les publicitaires, les politiciens, il faut quand même voter aujourd'hui, hein, mais les politiciens, les journalistes, les banquiers et les prêtres. Voilà l'ensemble des professions auxquelles les Français, de prime abord, font le moins confiance. Je ne sais pas pour votre part à qui vous faites le plus confiance, si vous faites plus confiance aux médecins, aux policiers qu'aux journalistes ou aux banquiers, mais en tout cas voilà ce que dit Ted Tripp, un auteur chrétien, à propos de cette question « En qui placez-vous votre confiance ?» Il écrit dans un de ses livres « J'ai vraiment du mal... En tant que pasteur, il m'arrive souvent d'entendre quelqu'un me dire « J'ai vraiment du mal à me confier en Dieu dans cette situation. Je demande alors systématiquement, mais alors, en qui te confies-tu ? » Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne cessons pas pour autant de faire confiance. Nous plaçons cette confiance en quelque chose ou en quelqu'un d'autre. Un exemple ou nos propres idées, par exemple. En qui ou en quoi placez-vous votre confiance ? Est-ce que vous avez déjà décidé de placer votre confiance entièrement en Dieu, ou est-ce que vous êtes tenté de vous confier en quelqu'un d'autre ou en autre chose? C'est justement la question que se pose Paul dans un texte qu'on retrouve en Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Et c'est cette question-là, en qui plaçons-nous notre confiance, qui est au centre de ce texte-là. Et je vous propose de lire ensemble, il va s'afficher, mais... si vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est encore mieux. Philippiens 3, versets 1 à 11. Donc Paul écrit à cette église qui est située dans la ville de Philippe en Grèce. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Voilà pour notre texte. Je vous propose simplement de prier pour la suite. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour le bienfait qu'elle est pour nous et que nous puissions être encore à ton écoute ce matin, que tu puisses encore parler à chacun de nos cœurs, au mien en premier, Seigneur, et que tu puisses nous donner le désir, la joie de te suivre et de t'obéir. Amen. Dans ce passage de Philippiens 3, Paul nous fait part dans un premier temps de trois choses dans lesquelles il a été tenté de placer sa confiance, à savoir sa religion, du verset 1 au verset 3, son héritage, du verset 4 au verset 5, et sa moralité, du verset 5 au verset 6, avant finalement de prendre la décision de placer toute sa confiance en Christ, du verset 7 au verset 11. Dans un premier temps, donc, Paul explique que nous pouvons facilement être tentés de confier nos vies dans une religion. Tout de suite après avoir encouragé les Philippiens à se réjouir au verset 1, au début du verset 1, comme il le fait pendant toute cette épître, qui est souvent appelée l'épître à la joie, le terme de la joie revient beaucoup dans cette épître, Paul demande, après avoir encouragé les Philippiens à la joie, Paul leur demande de rester vigilants, d'être sur leur garde. Il répète à trois reprises « Faites attention !» au verset 2. C'est pour bien attirer justement leur attention sur ce qu'il va dire. Quelque part, c'est une question de sécurité nationale, ou plutôt ecclésiale, que Paul traite ici. Un danger menace les chrétiens de l'église de Philippe. Un danger qui, je crois, peut nous menacer encore, nous, quelle que soit notre église, aujourd'hui encore. Le danger de se confier dans notre pratique religieuse. En évoquant ce qui sont la cause de cette tentation pour les Philippiens, de ce danger, Paul ne fait pas de dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a des paroles très dures. On croirait entendre comme des coups de fouet qui claquent. Il traite ces gens de chiens, de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Et ces trois expressions désignent le même groupe de personnes, en fait. Des faux enseignants qui cherchaient à forcer les chrétiens à se soumettre à la loi, qui leur enseignaient que la pratique de la circoncision juive était encore nécessaire pour être sauvé. Et Paul est absolument contre cet enseignement et ce qui est dit par ces hommes. Comme je vous l'ai dit, il les traite de chiens d'abord. C'est pas très gentil, hein. À cette époque, le chien représentait généralement le symbole de l'impureté. C'était pas le gentil petit toutou, c'était le symbole de l'impureté. C'est dans ce sens que Jésus dit, par exemple, en Matthieu 7, verset 6, de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Par cette injure, Paul pointe du doigt l'impureté du cœur des motivations de ces hommes-là. Les Juifs réservaient habituellement ce terme de chien à des personnes en particulier, aux païens. Ils traitaient les païens de chiens. Et le fait que Paul traite à son tour des Juifs de chiens a sans aucun doute encore plus souligné l'injure qui était faite ici. Ces hommes sont des mauvais ouvriers. Paul souligne que ces hommes ne sont pas au service des autres, mais d'abord au service de leur propre intérêt. Ils sont préoccupés par le regard qu'on leur porte. Ils cherchent un moyen de se vanter de leur service pour Dieu. Et enfin, ils les traitent de faux circoncis. Ces hommes imposaient le rite de la circoncision, comme je vous l'ai dit, comme une tradition juive qui devait être encore respectée pour être sauvée, pour accéder au salut. Ils croyaient que la circoncision était une condition nécessaire pour être sauvé. Ils enseignaient cela. Bref, ces hommes se confiaient dans leur pratique religieuse et pas en Dieu pour leur vie de foi. Il s'agit de légalistes, des assassins de la grâce, comme le dit Charles Swindoll dans un livre qu'il a écrit « Éveil à grâce ». Des assassins de la grâce. Ces personnes basent toute leur vie dans une religion fondée sur le principe du mérite. Si j'ai le bon comportement, si j'ai la bonne pratique, alors je mérite. Il n'y a rien de très étonnant à cela. Notre société, dans sa globalité, fonctionne sur ce principe du mérite. Depuis tout petit, si à l'école je suis gentil, j'ai une image, au bout de 10 images, j'ai un petit cadeau, etc. On pratique tous ça, même dans nos familles. Si je travaille bien, je réussis. Je ne dis pas que le principe du mérite est mauvais en soi. Mais quelque part, si on applique ce principe du mérite à Dieu, alors on fait complètement fausse route. On se trompe complètement. On va chercher souvent à appliquer ce principe à Dieu parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Pour avoir quelque chose, il faut que je mérite. Mais avec Dieu, on le sait, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. À l'inverse de ces religieux qui cherchaient à mériter leur salut à travers leur pratique religieuse, Paul décrit au verset 3 les vrais circoncis, c'est-à-dire le chrétien véritable, le chrétien nouveau-né, le chrétien qui connaît Christ personnellement et intimement. C'est celui qui n'est pas circoncis dans sa chair, forcément, mais qui est circoncis dans son cœur. C'est ce que Paul écrit dans une autre de ses lettres, en Colossiens 2, verset 11, il écrit « C'est en Christ aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. » Qui consiste à quoi cette circoncision ? À vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Le vrai circoncis, quelles sont ses qualités d'après ce que Paul nous dit en Colossiens 3 ? D'abord, il rend un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Un véritable chrétien a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il peut adorer Dieu et donc reconnaître son œuvre. Son culte personnel est d'abord spirituel. Ce n'est pas un rituel fait pour mériter quelque chose. Ce n'est pas un rituel basé sur son mérite. Non, pas du tout. C'est un rituel, un culte spirituel. Le vrai chrétien, le vrai circoncis, place sa fierté en Christ. La foi chrétienne ne pousse jamais à un orgueil mal placé, mais au contraire, on a fierté en Christ. Et on a évoqué ce matin tout plein de raisons pour lesquelles on peut être fier de Christ. Et enfin, il dit que le véritable chrétien, le véritable circoncis, ne met pas sa confiance dans sa condition. Il ne se fait pas d'illusions par rapport à lui-même et par rapport à son péché, mais il se remet à Christ. Connaissez-vous Léon, qui pratique une bonne religion ? Léon ne loupe jamais un culte, ni aucune autre réunion de l'Église. 15 ans de fidélité, sans un seul loupé. Même la fois où il était malade, il est quand même venu. Il donne bien sa dîme à l'église chaque dimanche. Il lit un chapitre de la Bible et prie 10 minutes chaque soir à 18h45 précise. Tout cela donne à Léon le sentiment d'être finalement plutôt quelqu'un de bien. Est-ce que vous vous retrouvez dans Léon qui pratique une bonne religion ? Est-ce que comme Léon, vous êtes tenté de vous confier dans votre religion ? Dans la suite du texte, entre les versets 4 et 6, Paul poursuit en nous livrant quelques détails de sa vie personnelle, dans lesquels il se confiait avant sa conversion, avant sa rencontre avec Christ. Et dans son témoignage, Paul dresse une liste de 7 spécificités personnelles qu'il pensait autrefois être à son avantage. Et on peut diviser ces 7 spécificités en 2 catégories. Les 4 premières lui furent octroyées par naissance. C'est en quelque sorte son héritage. Et les 3 suivantes, les 3 dernières, ont été acquises par ses propres efforts et soulignent sa moralité. Commençons par son héritage. Nous voyons d'abord la manière dont Paul a été tenté de confier sa vie dans son héritage. Pour son époque, Paul possédait un sacré pédigré, c'est moins qu'on puisse dire. Au point qu'il pouvait affirmer avec toute franchise au verset 4, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, eh bien moi je peux encore plus. » Pourquoi Paul pouvait dire ça ? Parce que Paul a été circoncis le 8e jour d'abord. Paul a reçu la circoncision rituelle israélite qui était pratiquée pour tout garçon nouveau-né, comme un signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et en expliquant qu'il a été circoncis le 8e jour, Paul souligne qu'il est juif de naissance et ainsi se distingue déjà de tous les hommes prosélytes qui sont devenus juifs en tant que prosélytes et qui n'avaient été circoncis que plus tard dans leur vie. Paul, lui, est juif de naissance, circoncis dès le 8e jour. Paul est de la race d'Israël. Étant né au sein de la race élue et admis par circoncision dans l'alliance faite entre Dieu et son peuple, Paul avait hérité de tous les privilèges qui appartenaient aux Juifs. Des privilèges qui sont détaillés par Paul lui-même en Romains 9, versets 4 à 5. Il dit « C'est aux Israélites qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. » Paul est de la tribu de Benjamin. Alors, la tribu de Benjamin était très estimée parmi les Juifs à cause de sa fidélité exceptionnelle à la lignée du roi David. Vous savez peut-être qu'après la mort du roi Salomon, le fils de David, le peuple d'Israël s'est séparé en deux. D'un côté, 10 tribus sur les 12 tribus d'Israël ont suivi une lignée concurrente de la lignée de David, du roi David. Seules 2 tribus ont continué à soutenir le roi David. La tribu de Juda, dont était originaire David, et la tribu de Benjamin, celle-là même à laquelle Paul fait partie. Peu d'Israélites à cette époque, à l'époque de Paul, pouvaient affirmer exactement à quelle tribu ils appartenaient, à cause des mélanges ethniques qui avaient eu lieu. Paul, lui, le pouvait. Il pouvait dire qu'il était de la tribu de Benjamin. Paul dit qu'il est aussi hébreu, né d'hébreu. La famille de Paul avait particulièrement tenu à conserver l'usage de la langue hébraïque et les coutumes traditionnelles juives. Alors que pour beaucoup de juifs, ce n'était pas le cas, de plus en plus de juifs parlaient d'abord gréco-romain. Dans la famille de Paul, on avait conservé la langue hébraïque. On poursuivait, on parlait encore hébreu. On pratiquait encore toutes les traditions hébraïques, ce qui était loin d'être le cas dans le peuple juif à cette époque-là, pour tous. Paul avait toutes les raisons valables d'être fier de ses origines, d'être fier de sa lignée, de son héritage. Aux yeux de la culture de l'époque, Paul, ce n'était pas le premier venu. C'était un juif de sang pur, pour ainsi dire. Circoncis le 8e jour, bénéficiaire des promesses de Dieu au peuple d'Israël, issu de la tribu de Benjamin, parlant l'hébreu, fidèle aux traditions juives. Sans vouloir faire de polémique, et simplement pour donner une image, Paul, c'était l'Arien plus blond que les autres. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait se situer au même niveau que Paul en termes d'héritage. Paul pouvait se reposer sur un héritage exceptionnel, un héritage qui le mettait à part. Il pouvait, plus que n'importe qui ou presque, se confier dans son héritage et se dire que finalement, il était fidèle à Dieu depuis toujours. Fidèle à Dieu depuis toujours, vraiment ? Voilà ce que témoigne Roy Essien, un évangéliste britannique. Il raconte « Un jour, à l'issue d'une grande réunion d'évangélisation, je parlais avec une dame qui me dit qu'elle s'était avancée pour accompagner son fils de 16 ans. « Et vous ?» lui demandai-je. « Oh, moi, j'ai toujours été chrétienne. » Je compris aussitôt qu'elle ne l'avait jamais été. Personne n'est chrétien depuis toujours. Nous sommes plutôt pécheurs depuis toujours, séparés de Dieu, jusqu'à ce que la grâce divine nous sauve. Connaissez-vous Serge, qui a un bon héritage ? Serge est né dans une famille chrétienne, évangélique. Ses parents donnent beaucoup de temps à l'église. Toute sa famille, oncle, tante, cousin, cousine, vont à l'église tous les dimanches. Toute son enfance, il l'a passée à l'école dimanche. Il était le premier de la classe pour réciter les versets. Tous les soirs, il lisait sa Bible avec papa ou maman. Tout cela donne à Serge le sentiment d'être finalement quelqu'un de pas si mal, de plutôt bien même. Est-ce que vous vous retrouvez dans Serge qui a un bon héritage ? Est-ce que comme Serge, vous êtes tenté de vous confier dans votre héritage ? Paul poursuit son témoignage de vie. Et avant sa rencontre avec Christ, il évoque 3 autres aspects qui sont le fruit de ses efforts. La manière dont il a été tenté de faire confiance dans sa moralité. Concernant la loi d'abord, il est écrit qu'il était pharisien. Les pharisiens faisaient partie à cette époque-là de la branche la plus conservatrice du judaïsme. Ils mettaient un point d'honneur à appliquer la loi d'une façon jusqu'au boutiste, dans les moindres détails. Faire partie du clan des pharisiens était donc une marque honorifique. Cela inspirait le respect à cette époque-là. Ce n'était pas n'importe qui était pharisien. D'après l'historien juif Joseph, au 1er siècle, les pharisiens étaient environ 6000. Donc ils représentaient quelque part le gratin religieux de cette époque-là. Une élite influente, respectée. Et Paul avait démontré toutes les qualités pour intégrer cette élite en tant que pharisien. Concernant le zèle, il allait persécuter l'Église. L'apôtre Paul a surpassé tous les autres pharisiens dans son zèle. Il n'a pas hésité à persécuter les chrétiens pour faire taire le christianisme, en les pourchassant même en dehors de Jérusalem. Et Paul, à ce moment-là, pensait sincèrement servir Dieu en cherchant à éliminer les chrétiens de tout, par tous les moyens possibles. Et enfin, concernant la justice légale, il dit qu'il était irréprochable. Personne ne pouvait accuser Paul d'un quelconque manquement concernant la loi juive. Alors cela ne veut pas dire, bien entendu, que Paul a toujours observé la loi parfaitement. Non. Mais cela veut dire qu'il a toujours pris soin d'offrir le sacrifice correspondant lorsqu'il allait à l'encontre de cette loi. Il était irréprochable dans sa manière de vivre la loi. Est-ce qu'on peut confier notre vie uniquement dans notre bonne moralité? Est-ce qu'on peut avoir une totale confiance dans notre moralité? Est-ce que notre bon comportement nous suffit pour vivre une bonne relation avec Dieu? Est-ce que si je me comporte bien, Dieu est satisfait finalement? Voici ce qu'écrit Tim Keller, un pasteur à New York, à ce propos. Imaginez une femme, une pauvre veuve, qui a un fils unique. Elle lui apprend comment elle veut qu'il vive. Toujours dire la vérité, travailler dur, aider les pauvres. Elle gagne très peu d'argent, mais avec ses maigres économies, elle parvient à le faire entrer à l'université. Imaginez que ce garçon, une fois diplômé, ne parle presque plus à sa mère. Il lui envoie une carte à Noël, mais ne lui rend jamais visite. Il ne répond pas à ses coups de téléphone ni à ses lettres. Il ne lui parle pas. Mais il vit comme elle lui a appris, honnêtement, en travaillant dur, en étant généreux. Dirions-nous que c'est acceptable? Bien sûr que non. Ne dirons-nous pas que ce garçon fait quelque chose de condamnable malgré son bon comportement, car il néglige sa relation avec celle à qui il doit tout? De la même manière, si Dieu nous a créés, que nous le devons tout et que nous vivons pour, que nous ne vivons pas pour lui, pardon, il ne nous suffit pas de bien nous comporter. Nous avons tous une dette que nous devons payer. Connaissez-vous Timothée, qui a une bonne moralité? Timothée n'a jamais touché une cigarette, ni un verre d'alcool. Déjà enfant, on disait de lui qu'il était très sage, capable de rester à tout un culte, assis, sans dire un mot. Un vrai modèle. Ado, il n'a jamais posé un seul souci à ses parents. Toujours très gentil, serviable, etc. Maintenant adulte, il semble toujours aussi mesuré droit, une sorte de gendre idéal. Tout cela donne à Timothée le sentiment d'être finalement pas quelqu'un de si mal, quoi. Plutôt bien. Est-ce que vous vous retrouvez en Timothée qui a une bonne moralité? Est-ce que vous êtes tenté, comme Timothée, de vous confier dans votre moralité? Si Paul s'était auparavant confié dans sa religion, dans son héritage, dans sa moralité, une rencontre a tout bouleversé pour lui. Sa rencontre avec Christ. Et il décrit sa conversion, cette rencontre avec Christ, au verset 7. Au verset 7, il dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Dans le verset 7, Paul décrit tout simplement sa conversion sous la forme d'un bilan comptable, avec deux colonnes, perte et gain. D'un côté, Paul énumère tous ses atouts, sa religion, son héritage, sa moralité, et de l'autre côté, Christ. Et le bilan qu'il fait est le plus simple qui n'ait jamais été fait de toute l'histoire, quel que soit le trésorier ou le comptable qui ait pu le faire. Pas besoin de sortir la calculatrice et de faire des calculs très compliqués, non. Tous les atouts de Paul ne valent rien par rapport à Christ. Tout ce en quoi Paul avait confié sa vie, tous ses atouts, Paul les avait jusque-là comptabilisés comme des bons points. Ils avaient inscrit dans la colonne gain. Mais lorsqu'il a rencontré personnellement Christ sur le chemin de Damas, on retrouve cette histoire dans Acte 9, cela a été douche froide pour Paul. Il a compris que tout ce en quoi il confiait sa vie n'avait aucune utilité devant Christ. n'avait aucune valeur. Cela ne pouvait pas le délivrer de son péché, ni le sauver. Et c'est même pire que cela. Tout ce en quoi Paul croyait pouvoir se confier, en fait, l'empêchait d'approcher de Christ. Tous ses atouts ne lui permettaient pas de venir à Christ. C'était plutôt un fardeau qui l'empêchait de venir à Christ. Tous ses atouts qu'il pensait être un gain, c'était en faire des pertes sèches. C'est pour cela que lorsqu'il a rencontré véritablement Christ, il s'est empressé d'effacer tous ses atouts de la colonne gain pour les inscrire dans la colonne perte. Il a tout de suite compris qu'il ne pouvait ajouter aucun de ses atouts en plus de Christ pour être sauvé. Tant que Paul se confiait dans ces choses, il ne pouvait pas être sauvé. Mais une fois sauvé, il a compris que toutes ces choses-là, tous ses atouts, toutes ses qualités ne valaient rien. Et qu'au contraire, ses atouts étaient presque néfastes pour lui, comparables à des boulets aux pieds de quelqu'un qui l'entraîne jusqu'au fond. C'est cela, la conversion. C'est saisir que tout ce en quoi je me confie, tous mes atouts, mes qualités, sont illusoires. Et décider de confier toute sa vie à Christ, seulement et uniquement à Christ. Le témoignage de Malcolm Muldredge, un journaliste anglais qui a connu une très belle carrière et qui s'est converti dans un âge avancé, est éloquent à ce propos. Voilà ce qu'il écrit. « Je suppose que je peux me considérer comme un homme qui a relativement réussi, ou en tout cas passé pour l'être. Parfois, on me dit visage dans la rue. Ça, c'est être célèbre. Je peux facilement gagner assez pour être admis au plus haut rang de l'Inaid Revenue, administration fiscale des Royaumes-Unis. Ça, c'est avoir du succès. Avec suffisamment d'argent et un peu de notoriété, même un homme âgé, s'il le désire, peut profiter des dernières distractions. Ça, c'est le plaisir. Il arrive qu'on tienne compte de quelque chose que j'ai dit ou écrit, suffisamment pour que je me convainque que cela a un impact important sur notre époque. Ça, c'est l'accomplissement. Et pourtant, je vous dis et je vous supplie de me croire que si on les mettait bout à bout, ils ne représenteraient rien, même moins que rien, un véritable embarras. Comparé à une gorgée de l'eau vive qu'offre Christ aux assoiffés spirituels, peu importe leur identité ou leur occupation, que peut offrir cette vie, je me le demande, qu'y a-t-il dans la totalité des événements du temps, passé, présent ou futur, qui pourrait être comparé au soulagement qu'on trouve en buvant de cette eau. Paul évoque au verset 7 sa conversion. Mais la conversion n'est jamais une fin en soi. Ce n'est pas le bout du chemin, la conversion. C'est seulement le début d'une nouvelle vie. Une vie où on se confie pleinement en Christ. Et dans les versets qui suivent, du verset 8 au verset 11, Paul nous laisse le programme de la suite. Il nous dit maintenant que nous avons confié notre vie à Christ pleinement, c'est quoi la suite ? La suite, il la résume en trois parties. La suite, c'est gagner Christ, au verset 8, être trouvé en Christ, au verset 9, et connaître Christ, au verset 10 et 11. D'abord, gagner Christ. Si au verset 7, Paul parlait au passé, il évoquait sa conversion, au verset 8, Paul maintenant parle au présent. Il dit « je considère même ». Vous ne le savez peut-être pas, mais cette épître de Paul, que Paul écrit aux Philippiens, c'est 30 ans après sa conversion. 30 ans après sa conversion. Et voilà ce qu'il dit, pour paraphraser le verset 8. « Ce n'est pas seulement à ma conversion que j'ai considéré ces choses, tout ce qu'on a vu, comme une perte, mais encore plus maintenant. » Après une longue expérience de vie chrétienne, je regarde toute chose, tout ce que le monde pourrait m'offrir, comme une perte. 30 ans après sa conversion, Paul continue toujours de s'en confier en Christ et continue toujours de rejeter tout ce qui pourrait être un obstacle pour lui dans sa vie de foi et dans le fait de se confier en Christ. Son leitmotiv, ce qui est au cœur de sa vie, c'est de gagner Christ. Et pour gagner Christ, Paul continue de renoncer aux valeurs qu'il avait appris à estimer le plus avant sa conversion. Encore maintenant, 30 ans après, il continue de renoncer à sa religion, à son héritage ou à sa moralité. Et il va loin. Il dit qu'il les considère comme des ordures, dans l'original comme de la boue. Parmi nous, j'imagine qu'il y a des chrétiens depuis de longues années maintenant. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Quand quelqu'un se convertit, Christ devient tout pour lui. Et plus rien d'autre n'a d'importance. J'espère que c'est l'expérience que vous avez vécue. Malheureusement, parfois, les années passent, et nos atouts, nos qualités, sur lesquels on mettait notre confiance avant notre conversion, reviennent au galop et reprennent peu à peu de l'importance dans nos vies. Au point que, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, de vous dire, « Dieu, tu n'as pas fait un si mauvais choix que ça finalement. » Vous vous rendez compte où on peut en arriver ? Que faire dans ce genre de cas ? Que faire dans ce genre de cas ? La difficulté, je crois, vient tout simplement de l'attrait que nous pouvons encore avoir pour nos atouts, pour nos qualités. Et pour effacer cet attrait et cette fierté qu'on peut placer dans ces choses-là, Paul nous donne le secret au verset 8. Il faut faire comme Paul, considérer tout cela comme des ordures, comme de la boue. Pourquoi ? Parce que si on estime une chose comme une ordure, comme de la boue, alors on l'abandonnera beaucoup plus facilement que si on l'estime comme quelque chose de bien, d'important, de chouette, à mettre en avant. Non. C'est pour cela qu'il faut sans cesse, je crois, mettre les choses de ce monde, mettre nos qualités en perspective, en les comparant à Christ. Il est tellement plus grand, tellement plus merveilleux, on l'a vu encore ce matin, que nos plus beaux atouts, nos plus belles qualités, sont finalement tellement peu de choses devant lui. Et ça nous permet de mettre les choses dans la bonne perspective. Paul dit au verset 9 qu'il y a un contraste entre deux justices bien différentes. Une justice qui vient de la loi. S'il était possible de l'atteindre, cette justice, ce serait une justice purement humaine, selon les normes définies par la loi. C'est une justice qui s'obtient par ses mérites. Mais Paul évoque une autre justice, la justice qui vient de Dieu. C'est une justice divine, et pas humaine. Elle n'est pas fondée sur le respect d'une loi, mais sur la foi en Christ. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais quelqu'un à croire. C'est une justice qui se reçoit comme un don, comme un cadeau. Comme le dit Romains 3, versets 23-24, « Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Paul a saisi que sa propre justice humaine ne valait rien devant Dieu, comme on l'a vu déjà. Mais elle a voulu être trouvée en Christ, c'est-à-dire bénéficier de la justice du Fils unique de Dieu, de Christ, pour lui. C'est ça, être trouvé en Christ. C'est bénéficier de la justice de Christ devant Dieu. Enfin, Paul veut bâtir sa vie sur la connaissance de Christ. Il ne s'agit pas d'une connaissance vague et très théorique, non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, on le voit au verset 10 au verset 11. D'abord, Paul parle de fait de connaître Christ dans sa mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En disant qu'il est prêt à connaître la communion aux souffrances de Christ, en devenant conforme à lui dans sa mort, Paul n'est pas maso, non. Mais il explique simplement qu'il est prêt à vivre la persécution pour sa foi, et même à donner sa vie pour permettre le progrès de l'évangile. Ça, c'était Paul. Hudson Taylor, un célèbre missionnaire du 19e siècle en Chine, va dans le même sens. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit « En cas de besoin, il faut nous sacrifier nous-mêmes pour la vie du monde. Porter du fruit nécessite de porter la croix. Nous savons comment le Seigneur Jésus a porté du fruit. non seulement en portant sa croix, mais en mourant sur elle. Sommes-nous en communion avec lui en cela? Il n'y a pas deux Christ, l'un facile à suivre pour des chrétiens avares de leur peine, et l'autre qui souffre et qui endure pour des croyants exceptionnels. Il n'y a qu'un seul Christ. Voulons-nous demeurer en lui et ainsi porter du fruit? Est-ce que les propos de Paul ou d'Hudson Taylor sonnent comme ceux de fanatiques à nos oreilles? Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt nous, et je m'inclus pleinement dedans, qui sommes peut-être trop facilement portés à notre vie de confort, à une certaine vie de facilité? Paul dit qu'il veut aussi connaître Christ dans sa résurrection. Paul désire par-dessus tout parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Paul attend avec ferveur le retour de Christ. Et là encore, est-ce que nous vivons dans le confort du monde, de notre société, de notre petite vie? Ou est-ce que nous attendons avec impatience le retour de Christ? En conclusion, Léon et sa religion, Serge et son héritage, Timothée et sa moralité. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans ces personnages purement fictifs, mais je voudrais terminer en évoquant un personnage bien réel, une personne bien réelle. Il s'agit de Stéphane, de moi-même. Stéphane, un sacré âne. Stéphane, ce sacré âne, est un mélange malheureux de Léon, Serge et Timothée. Parce que Stéphane, cet âne, est souvent tenté de se remettre dans sa religion, parce qu'après tout, je pratique tout ce qui est nécessaire dans la religion évangélique chrétienne d'aujourd'hui. Dans son héritage, parce que je suis le fruit de quelques générations de chrétiens derrière moi. Dans ma moralité, parce qu'après tout, je n'ai jamais tué personne. J'espère ne pas être le seul à me retrouver dans cette situation, pour ne pas être pointé derrière. Mais est-ce que vous vous retrouvez dans ces personnages fictifs? Non, ma religion, mon héritage, ma moralité ne sont rien devant Dieu, ne pèsent pas lourd. C'est de la boue, Paul l'explique. J'ai pleinement compris maintenant il y a à peu près 25 ans. Et pourtant, je dois confesser que je lutte encore avec cela. J'ai besoin d'avancer avec le Seigneur sur ces aspects-là, pour apprendre à ne pas me confier dans mes qualités, dans ce qui fait de moi ce que je suis, que je pourrais mettre en avant. Non, j'ai besoin de lutter contre cette tentation-là pour me confier toujours davantage en Christ, pour ne pas chercher à me dire « je ne suis pas si mal que ça », mais pour me dire « non, je suis au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix ». Et vous, où en êtes-vous chacun dans votre lutte par rapport à ces fausses idées? Avez-vous pleinement saisi et confié toute votre vie en Christ? Je prie que ce soit le cas en tout cas pour chacun d'entre nous ce matin, que ce soit un rappel pour chacun d'entre nous dans nos cœurs de placer totalement notre confiance en Christ, comme Paul a pu le faire, de mettre Christ au centre de notre vie pour jour après jour, toujours plus gagner Christ, être trouvé en Christ et connaître Christ pleinement. Je vous propose de prier. Seigneur, tu connais toutes nos tentations, notre capacité à nous reposer, nous confier dans nos propres qualités. Seigneur, je te prie de nous pardonner, Seigneur, si nous sommes allés trop loin et que nous nous confions dans les mauvaises choses, Seigneur. Je te prie de nous rappeler que ton œuvre est la plus inestimable qui ait jamais eu lieu à la croix et de nous confier pleinement en toi. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, je te prie pour cette assemblée, Seigneur, que de plus en plus, elle puisse gagner Christ, être trouvée en Christ et connaître Christ. Amen.